Alors, on se remet au boulot. Bien l'attaque. Vous remettre au travail et que vous avez travaillé tout de même un petit peu pendant ces vacances.
C'est bien.
Obligé ? Oui. Alors, j'aimerais vous rappeler que nous avons à préparer les partiels. Il faut y penser. Les examens partiels. Alors, les examens partiels, je ne sais pas, on le fera peut-être dans le courant de février. Mais en prévision de cela, je vous répète une fois de plus, je vais de répéter en ce début de trimestre, qu'il faudrait faire un certain nombre de lectures, et en particulier les lectures que j'avais indiquées dans la feuille du livret de la section, là, vous vous rappelez, au début de l'année. J'ai indiqué là un certain nombre de textes, et je me demande combien d'entre vous ont eu la curiosité déjà de lire ce texte-là. Par exemple, je vois le hadith de Al-Bukhari, l'authentique tradition islamique, traduction Georges Bousquet, qui a vu ce livre-là et qui l'a eu entre les mains et qui l'a lu. Personne. Oui, vous pouvez, bien sûr, c'est excellent. Si vous, ceux qui peuvent lire le Al-Bukhari directement en arabe, c'est excellent. Mais ceux qui ne le peuvent pas, vous avez là un choix de hadith qui vous donne une idée de ce qu'est cette littérature. Comment ? Non, non, il ne s'agit pas de lire Al-Bukhari en entier. Justement, je vous ai donné celui-ci parce que ce sont des extraits d'un petit livre accessible et que tout le monde peut lire. Oui, il n'est pas là, mais il se trouve à l'école des langues orientales. Il faut se déplacer un peu. Il faut se déplacer. Il faut chercher. Et en revanche, il y a l'autre livre de Ibn al-Muqaffa, dont je vous avais dit qu'il était très important, la Risala al-Sahaba, qui, elle, se trouve facilement, parce qu'elle a été éditée seulement l'année dernière chez Maisonneuve, et je vous avais indiqué que c'est un texte extrêmement important qu'il a lu. Un doigt seulement se lève. Bon, alors vous voyez, je crois qu'il n'est même pas la peine que je continue cette énumération. Autrement dit, vous êtes toujours en dehors du coup. Moi, je ne vais pas répéter inutilement les choses. Libre à vous de lire ou de ne pas lire. Vous êtes entièrement libre, c'est votre décision. Je suis obligé d'en tirer les conséquences. C'est tout. Bien, ceci dit, l'un d'entre vous, avant les vacances, avait demandé quelques indications d'exposé pour que vous puissiez réfléchir en fonction des sujets d'exposé possibles. Alors, je vais vous en indiquer quelques-uns et en même temps une petite bibliographie pour traiter ces exposés. Alors, éventuellement, j'accepterai des devoirs qui me seraient remis en dehors des partiels, et ça fait partie du contrôle continu. J'accepterai des devoirs qui me seraient rendus sur les lectures, les textes que j'ai indiqués, que vous n'avez pas pu lire, que vous n'avez pas jusqu'à présent voulu lire, pas pu lire, vous n'avez pas voulu lire. Ceux qui veulent faire des comptes rendus de lecture peuvent les faire sur un des ouvrages indiqués ici. Ils me remettraient ce compte rendu de lecture que je corrigerai et qui comptera parmi les exercices du contrôle continu. Ça, c'est une première chose. Vous avez une quinzaine de livres là-dedans qui peuvent faire l'objet d'analyse et de compte rendu de lecture.
Est-ce
est-ce que...
En dehors de ceci, je vais vous indiquer quelques sujets d'exposé que vous pouvez également traiter. Je vais vous donner la bibliographie nécessaire pour traiter chacun de ces sujets. Et là aussi, j'accepterai soit que l'un d'entre vous prenne la parole devant tout le monde pour faire un exposé de 20 minutes, même si vous êtes nombreux, quand quelqu'un viendrait ici, il parlerait pendant 20 minutes. Si c'est bien, on le laisse parler pendant 20 minutes, on s'instruit. Bon, si on voit qu'il déraille et qu'on perd du temps, on peut s'excuser auprès de lui et lui dire, bon, on va gagner du temps en passant à autre chose. Vous voulez demander quelque chose?
Oui, je voulais vous demander, est-ce que ces lectures, vous croyez qu'on pourrait les comprendre dans leur sens global? C'est-à-dire les comprendre vraiment si on n'a pas cette notion essentielle à la base.
Si vous avez suivi, je dis bien, les directives de lecture que j'avais données au début de l'année, et je vous avais donné des directives de lecture hiérarchisées, en vous indiquant les livres qu'il fallait lire d'abord, pour que vous puissiez comprendre ensuite les autres. Je vous avais dit tout cela, je ne vais pas le recommencer. Si tout cela s'est envolé, a été emporté par les vents, c'est fini. L'année est engagée, nous sommes au début du deuxième trimestre. Je ne vais pas recommencer. Alors je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour pouvoir, par exemple, comprendre un livre comme celui d'Ibn Battah, le situer dans une suite chronologique, etc. Je vous avais dit ce qu'il fallait lire au départ, et des lectures hiérarchisées. Si vous ne savez pas prendre de notes, si vous ne savez pas suivre les conseils que l'on vous donne, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé pour travailler dans l'enseignement supérieur. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes encore au niveau du lycée, où l'on doit répéter, leur dire, il faut faire ceci pour demain, le cahier texte, etc. Ben non, c'est pas ça. Bien, alors voici quelques sujets d'exposé. Premièrement, notre sujet, que tout à l'heure je vais vous donner un exemple, comment lire le Coran, étude des concepts de Ma'al, Al-Ma'al. On va l'étudier tout à l'heure celui-là, ça nous servira d'exemple. Étude des concepts de Ma'al, c'est-à-dire l'avoir, étude du concept de Sama, le concept de Sama dans le Coran, le ciel, concept de Ard, le concept de Yaoum. Vous voyez, je prends exprès des mots extrêmement courants, des mots très simples, de tous les jours, mais il se trouve que ces mots-là, dans le texte coranique, ont une importance considérable. Concept de Yaoum, par exemple, c'est toute la notion de temps. Mais la notion de temps, telle qu'elle fonctionne dans le texte coranique, qui n'a rien à voir avec notre notion de temps à nous, aujourd'hui. Alors c'est une étude historique sur la notion de temps telle qu'elle est utilisée dans le Coran. La notion de Sama, c'est la notion d'espace. Ard, la notion d'espace. Alors, vous voyez que ce sont des mots apparemment extrêmement simples, mais il se trouve qu'ils ont dans le texte coranique une importance fondamentale, une importance organisatrice de la pensée, parce que la pensée, la réflexion, toute réflexion se situe dans des coordonnées spatio-temporelles. Quand nous parlons, nous situons toujours ce que nous disons dans un temps et dans un espace. Mais le temps et l'espace ne sont pas les mêmes selon les cultures et selon les moments envisagés de l'histoire de la culture. Et le Coran est un texte qui fonctionne dans une culture prise à un moment donné de son évolution, la culture arabe, au 7e siècle, il y a très longtemps. Et donc il y a lieu de commencer par étudier les concepts d'espace et les concepts de temps tels qu'ils fonctionnent dans ce texte-là. Ce qui suppose une analyse linguistique extrêmement serrée de tous les versets dans lesquels se trouve employé le mot « sama ». Et je peux vous dire tout de suite que le mot « sama » est employé 190 fois dans le Coran. Et le mot ard est employé plus de 400 fois dans le Coran. Rien que ces chiffres vous indiquent une importance, l'importance de ces mots dans l'organisation du discours coranique. Voilà une manière extrêmement rigoureuse d'envisager l'étude, de pénétrer dans l'étude du discours coranique, au lieu de la manière traditionnelle que vous connaissez et que vous trouvez un peu partout. Alors vous avez ça, vous avez aussi, on peut prendre même avec le mot yaoum, pour le temps, on peut prendre la particule il, qui indique le temps, lorsque, une particule de temps. Rien que cette particule, elle est d'une extrême richesse dans la structure du discours coranique et son fonctionnement. Alors, je suppose que vous avez lu le texte que je vous avais indiqué, comment lire le Coran, mon introduction là, que je vous avais indiqué. Il y a déjà là des indications sur la façon de lire le Coran de cette manière lexicologique, c'est-à-dire étudier la structure du lexique coranique et la façon dont le lexique coranique fonctionne dans le texte coranique historiquement et non pas tel que chaque musulman le fait fonctionner en projetant sur ce texte des conceptions qui sont venues après coup. Ça, c'est une autre lecture. C'est la lecture projective, la projection. Yasubbu ala al-Qur'an ma'aniya laysat fihi bal yasubbuha sabban alayhi en arabe. Alors ce sont là deux lectures tout à fait différentes, lecture linguistique et historique qui respecte le texte dans sa réalité historique et linguistique, et puis une lecture de projection mentale, c'est-à-dire essentiellement subjective, que l'on appelle aussi la lecture de foi, des gens qui ont la foi et qui vivent de ce texte. Elle a sa justification, il ne s'agit pas de dire éliminer, mais enfin ce sont deux lectures différentes. Nous ici nous faisons de l'histoire et de l'analyse, nous voulons savoir comment les choses se sont passées dans l'histoire. Voilà un premier. Alors évidemment on peut multiplier des exposés de ce genre parce que je vous peux prendre beaucoup de mots. Par exemple vous pouvez étudier le concept de Jahannama, l'enfer. Vous pouvez étudier le concept corrélatif de Jahannama qui est Jannah, le paradis, etc. Et tous ces mots-là reviennent un très grand nombre de fois dans le Coran. Ils ont donc un pouvoir structurant du point de vue de la sémantique coranique. Ils ont un pouvoir structurant. Quelqu'un demande la parole.
Oui, une question sur la quantité de l'exposé. Est-ce qu'on peut écrire...
Vous écrivez tout ce qu'il faut à propos de chaque sujet.
Donc le volume...
Le volume, ça peut être trois bonnes pages où il y a une matière concise et bien pensée et le dessin d'une méthode solide, c'est très bien. Trois pages, c'est très bien. Mais ça peut être aussi 20 pages si la matière le requiert, à condition que ce soit toujours solide et méthodique et que ce ne soit pas un bavardage inutile du délayage en dehors du studio, auquel cas les trois pages sont préférables à 20 pages, bien entendu. Bien, le deuxième, oui. Oui, alors je m'excuse, oui, vous avez raison. Pour traiter ces sujets, vous avez deux index. Parce qu'il n'est pas question de lire tout le texte coranique pour relever vous-même. Vous n'avez pas à relever vous-même tous les endroits où se trouve le mot ard, ou le mot sama, ou le mot id. C'est fait, c'est un travail qui est fait. Il y a ce qu'on appelle des concordances. Alors il y a deux concordances. La concordance du Coran, de tout le vocabulaire coranique, de Flügel. Alors Flügel vous donne chaque mot, il relève. Par exemple, vous cherchez le mot id, c'est classé par ordre alphabétique comme un dictionnaire, vous allez chercher id, et sous id, il va vous donner tous les versets du Coran où le mot id intervient. Tous. Alors ça, c'est une concordance. Elle est maniable, elle est relativement mince, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus commode, parce que elle ne donne pas seulement le mot que vous cherchez. Par exemple, si vous cherchez ard, elle ne vous donne pas seulement le mot ard comme flügel, mais elle vous donne le contexte, c'est-à-dire un extrait du verset. Ce qui est beaucoup plus commode, parce que vous voyez très bien l'emploi du mot ard dans la phrase elle-même, sans que vous ayez besoin d'aller le rechercher à partir de Flügel. Vous êtes obligé d'aller chercher le verset et de le lire dans le texte coranique. Tandis que dans la deuxième, que je vous conseille, mais elle est assez difficile à trouver, mais elle se trouve aux langues orientales toujours, de Abd al-Baqi. La concordance, ça s'appelle Al-Qur'an al-Mufahras. Al-Qur'an al-Mufahras. Fahrasa, c'est l'index, catalogué. Al-Qur'an al-Mufahras. Alors, je vous conseille beaucoup ça, cette deuxième, parce que je vous dis, c'est très, on peut faire les exposés là très, très facilement. Vous avez par exemple toute la liste des versets, plus de 400 versets, où il y a le mot Arab, tous énumérés, sans que vous ayez besoin d'aller les chercher dans le texte coranique. C'est une analyse, c'est une étude. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vous donnerai un modèle avec le mot mal tout de suite. Mais je vais d'abord terminer l'énumération des exposés. Alors, le deuxième série d'exposés. Deuxième série d'exposés, la personnalité de Muhammad, même exposé sur Ali, la personnalité de Ali, Ali ibn Abi Talib, Ali. Ce sont des exposés différents, bien sûr. Pour chaque personnage, on peut faire un exposé. Il y a largement de quoi faire. La personnalité de Muhammad, la personnalité de Ali, la personnalité de Hassan, le fils de Ali, la personnalité de Hussein, le deuxième fils de Ali, la personnalité de Fatima, la personnalité de Ja'far Sadiq. C'est le sixième imam chiite, très important. Sixième imam chiite. Alors, je vous donne ces noms-là, d'abord parce qu'ils sont extrêmement importants tous dans l'histoire de la pensée. Ensuite, parce que vous avez pour chacun de ces noms un article très bien fait, très documenté dans l'Encyclopédie de l'Islam, deuxième édition. De sorte que vous pouvez constituer, déjà, comme je vous l'avais indiqué, des fiches très documentées sur chacun de ces personnages pour connaître le rôle que chacun a joué dans l'histoire de la pensée et en même temps dans la politique, parce que les deux sont liés. La pensée et la politique sont intimement liées. L'histoire politique que vous étudiez par ailleurs, avec Rosenberger, est liée à l'histoire de la pensée. Et ces personnages-là ont tous joué un rôle de premier plan pour cette histoire-là. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, pourquoi est-ce que je vous donne ces sujets-là, la personnalité de ces personnes-là? Parce qu'ils se posent pour toutes ces personnes le même problème de méthode. C'est le problème qui consiste à bien distinguer l'aspect historique de chacune de ces personnalités et l'aspect mythique de chacune de ces personnalités. Car chacune d'elles a vécu, c'est un personnage réel, en chair et en os, tous sont des personnages, des hommes qui ont vécu, l'histoire nous le rapporte, il y a des événements précis qu'ils ont fait, des ouvrages, etc., des enseignements, ça c'est l'aspect historique, positif, comme nous faisons l'histoire. Mais chacun de ces personnages a pris une telle dimension dans la conscience musulmane que cette conscience en a fait une amplification mythique. Par exemple, Ali est devenu une figure mythique pour toute la pensée chiite, et même partiellement pour la pensée sunnite. Alors, cette dimension mythique de chacun de ces personnages ne doit pas être exclue comme étant une dimension de gens qui fabriquent toutes sortes de croyances qui ne correspondent pas à l'histoire, pas du tout. Je vous ai déjà dit que le mythe est une force réelle qui compte justement dans l'histoire. Et les événements qui se passent par exemple en Iran en ce moment-ci nous montrent suffisamment à quel point la force du mythe, et pas la force de l'histoire, la force du mythe peut opérer dans une histoire et déclencher des événements de très grande portée. Et d'une façon générale, la valeur mythique des personnages comme ceux que je vous cite s'est perpétué dans tout le domaine islamique, dans le vaste mouvement, la vaste croyance que l'on appelle Al-Mahdiya fil Islam, c'est-à-dire le Mahdisme. Le Mahdisme, c'est la croyance en un Mahdi. Qu'est-ce que c'est qu'un Mahdi? Le mot Mahdi, en arabe, Mahdi, yani maf'oul, celui qui a reçu la Hidayah de Dieu. La Hidayah, c'est la bonne direction que Dieu imprime à la conduite de certains hommes pour agir en conformité absolue avec ses volontés. C'est donc un homme intimement lié, si vous voulez, à la volonté de Dieu et qui exécute les commandements de Dieu sur terre. C'est une croyance. Et encore une fois, cette croyance se traduit par des conduites historiques. Même si on n'y croit pas soi-même, ça a peu d'importance. L'essentiel, c'est de savoir que cela a existé et existe encore, et que cette croyance est une force historique dans les sociétés. Et d'ailleurs, le phénomène du Mahdi, ici, se traduit dans un contexte mythique, mais vous avez dans des contextes laïcisés également la croyance dans le chef. La croyance dans le héros national. Ça procède exactement du même attachement des hommes à suivre une direction qui leur est montrée par un des leurs, soit parce qu'il a une bravoure politique, soit parce qu'il a une clairvoyance politique, etc. Il y a diverses raisons qui font que des hommes accèdent au rang de leader, de chef, etc. Voilà donc l'importance de ces sujets, voyez-vous, que vous pouvez, j'espère, traiter avec les indications suffisamment riches que vous trouverez dans l'encyclopédie d'Islam, toujours deuxième édition, j'insiste, et pas la première, parce que dans la première, vous ne trouverez pas grand-chose. Quatrième série d'exposés, ou troisième série, c'est le phénomène urbain par opposition au phénomène de la badia, le phénomène urbain, le phénomène de la cité en islam, par opposition au phénomène rural et au phénomène bédouin. Je vous ai déjà dit que c'est un phénomène qui existe dans tout le domaine arabe. Il existe géographiquement dans tout le domaine arabe. Et la géographie commande l'existence de ces deux types de civilisations. Alors c'est très important pour nous de savoir comment la pensée que nous étudions est liée essentiellement au phénomène urbain. Elle est liée à la croissance du phénomène urbain. Il faut donc étudier une trajectoire de l'évolution de la cité à partir de la Mecque, Médine, Basra et Koufa. Voilà, vous avez deux villes au Hijaz en Arabie. La Mecque, c'est le point de départ, Médine, second point de départ. Mais les deux se trouvent en Arabie. Mais dès 636-638, c'est-à-dire 4 ans après la mort du prophète, le calife Omar a fondé 2 centres urbains qui vont jouer un rôle tout à fait de premier plan, à la fois sur le plan social, politique et culturel. Ces deux villes, ce sont Basra et Koufa, en Mésopotamie, dans le bas Irak. Les deux villes de Basra et Koufa vont être peuplées, dès le départ, par des tribus arabes, mais aussi par une population non arabe, que l'on appelle les Mawali. Les Mawali, c'est-à-dire les clients, ceux qui sont attachés aux tribus arabes aristocratiques, mais qui vont petit à petit devenir autonomes et indépendants, et même plus forts, plus puissants que les Arabes eux-mêmes. Et ces Bawalis, ce sont les indigènes de l'Irak. Et les indigènes de l'Irak, c'est une population qui remonte très loin dans le passé, jusqu'à l'époque de Sumer et de Babylone. C'est une très vieille civilisation. Donc lorsque nous passons du Hijaz à Basra et à Koufa, qu'est-ce qui se passe? Nous changeons de dimension historique. Nous changeons d'espace culturel. Et voilà, ça c'est important ça. Parce que là, l'histoire arabe vous dira tout de suite, c'est toujours le phénomène arabe qui continue, et c'est la civilisation arabe qui continue. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier cela, ni de minimiser cela. C'est vrai. Seulement, il faut voir que ce phénomène de la civilisation arabe et islamique va se dérouler sur une terre qui a une histoire beaucoup plus lointaine. D'abord, en Mésopotamie, il faut se reporter à tout le Proche-Orient ancien, toute l'histoire assyrienne, babylonienne, qui n'est pas morte, qui vit encore. Et puis vous avez toute l'histoire iranienne, car l'Iran, le golfe persique, n'est pas très loin de Basra et de Koufa. Et il va y avoir des Iraniens qui vont s'installer de plus en plus justement dans la région de Basra et de Koufa. Et voilà pourquoi ces deux villes vont jouer un rôle tout à fait de premier plan dans tout le développement ultérieur de la civilisation arabe en général. Alors, il faut étudier en particulier ces deux villes-là. Vous avez deux articles toujours dans l'encyclopédie de l'islam, Basra et Koufa. Je n'ai pas le temps de vous exposer tout ça moi-même. Il y a des études bien faites, concises, succinctes, il suffit de les lire. Encore une fois, si vous ne voulez pas les lire, tentez pour vous. Vous avez toujours le phénomène urbain, évidemment la ville de Damas, que vous trouverez dans l'encyclopédie de l'islam, de son nom arabe, Dimashq. C'est écrit comme ça dans l'encyclopédie d'Islam. Je vous l'écris comme dans l'encyclopédie. Dimashq. Autre centre important qui, lui, est au cœur du Proche-Orient chrétien, plutôt tourné vers Byzance que vers l'Iran. Vous voyez les influences. Basra et Koufa, ce sont des fenêtres vers l'Iran. Donc une autre civilisation, une autre histoire. Et voilà pourquoi pendant le règne des Omeyyades, le gouvernement Omeyyade qui est en Syrie, à Damas, aura beaucoup de mal à soumettre les populations de Basra et de Koufa, et du Bas-Irak en général. Parce que ce sont des populations ethno-culturellement différentes, c'est une autre histoire, alors qu'à Damas, on a d'autres références culturelles. Alors vous voyez que ces différentes références vont s'opposer, se contester mutuellement, mais cette contestation justement est une source de grande richesse pour la pensée. Parce qu'il va y avoir justement des discussions doctrinales très importantes entre ces différents centres qui chacun manifeste une vocation intellectuelle en rapport avec la tradition des populations dans chacun de ces centres urbains. Et ceci pendant le 1er et le 2e siècle de l'Égypte, jusqu'à l'avènement des Abbasides, jusqu'en 760. Alors jusqu'en 760, vous avez trois pôles urbains à regarder. Le pôle hijazien, l'Arabie proprement dite, le point de départ, avec Médine et la Mecque, qui continuent d'exercer, de jouer un rôle, elles ne disparaissent pas. Même lorsque le califat se transporte à Damas, elles gardent encore leur importance. Le pôle syrien, syro-palestinien, la vieille Syrie-Palestine, Cham, le vieux Cham, oui, influencé par Byzance, et la ligne grecque. Et évidemment le judéo-christianisme. Et puis le troisième pôle vers l'est, Basra et Koufa. qui peu à peu va attirer des populations iraniennes qui vont devenir prépondérantes justement avec l'avènement de la dynastie abbasside et la fondation d'une autre métropole qui va être un confluent de toutes ces villes justement que nous venons d'énumérer, c'est-à-dire Bagdad. Bagdad intervient à partir de 760. Elle intervient tardivement et elle va être l'héritière de tout ce qui s'est passé pendant les deux premiers siècles. Et il s'est passé beaucoup de choses pendant les deux premiers siècles, beaucoup de choses que l'on ignore, que l'on a très mal étudiées, parce qu'on dispose de très peu de sources, très peu de textes, mais tout de même, il s'est passé pendant ces siècles-là des choses tout à fait décisives, sur lesquelles nous reviendrons. Alors, ce que vous voyez par ces exposés-là, c'est que, encore une fois, la cité musulmane, le phénomène urbain vont commander le développement de ce que nous appelons, ce que nous étudions comme étant la civilisation arabe et musulmane, beaucoup plus que le phénomène rural et le phénomène bédouin qui vont être progressivement refoulés et marginalisés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Le bédouin n'a jamais disparu et les ruraux n'ont jamais disparu, seulement ils vont être marginalisés par les élites urbaines, élites intellectuelles qui gravitent autour de la cour et qui vont fabriquer toutes les idéologies qui relèvent de l'histoire de la pensée, élites économiques des marchands qui vont vivre dans les villes, élites économiques des propriétaires terriens mais qui ne vont pas sur leurs terres pour les exploiter, ils les font exploiter par les ruraux et eux ils vivent dans les villes, et ça c'est un vieux phénomène qui va durer jusqu'à maintenant, et aujourd'hui encore on lutte contre les féodaux, ça va très loin, n'est-ce pas? Et puis l'élite politique. Alors vous voyez comment la société ou les sociétés arabes se structurent dans deux directions différentes, avec des inégalités qui vont se développer entre ces deux parties. Alors il ne faut jamais perdre de vue l'existence du monde rural et du monde bédouin qui prendra sa revanche, d'ailleurs parce qu'on ne s'est pas suffisamment occupé de lui, il prendra sa revanche à partir du 11e siècle. Donc vous pouvez également regarder l'article Bagdad dans l'encyclopédie de l'islam. Quatrième série d'exposés, on peut les faire sous le titre très général avoir, pouvoir, valoir. Avoir, pouvoir, vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Valoir ou vouloir?
Pardon. Avoir, pouvoir, valoir. Quel est l'intérêt de cet intitulé? C'est un intitulé général sous lequel on peut faire énormément d'exposés. Énormément d'exposés. Comment? Quel est l'intérêt de cet intitulé? Pourquoi?
Il met en reflet les forces, si vous voulez, économiques et politiques dans la période d'Inde. C'est trop antique. L'avoir, le pouvoir, l'avoir, le valoir. Si on a, on peut valoir une certaine valeur. Elle peut être valoir une certaine mode de pensée, un certain mode de vie, si vous voulez. Et on peut valoir ça si on a l'avoir, si on a. Ça met en tout cas à la surface les conflits, si vous voulez, politico-économiques de la société à une période donnée.
Oui, c'est un commentaire possible, mais il y a d'autres commentaires que vous allez donner, j'espère, en réfléchissant un peu. J'aimerais bien voir comment vous réfléchissez de temps en temps. Car c'est toujours le grand silence.
Ces trois concepts sont des concepts qu'on les voit toujours et dans chaque société, que ce soit primitive ou politique. Alors, à chaque avoir, on attribue certains modes de réflexion et qui est toujours, c'est-à-dire qui dépend toujours du pouvoir et du valoir en même temps. Alors, peut-on essayer de faire des réflexions de ces trois concepts, de de la période islamique. Est-ce que l'islam, en venant, est-ce qu'il a changé ses concepts d'avoir, pouvoir et valoir, ou bien ces trois concepts sont restés toujours comme elles étaient au Jahiliya? Et après, on peut aussi
bonne idée.
Faire d'autres réflexions. Est-ce que ces concepts restent toujours à nos jours d'aujourd'hui comme à l'été?
Oui.
Oui,
oui, en effet, voilà un certain nombre de points, oui, c'est exact, tout ceci, c'est un commentaire, en effet, qui correspond à mon intention en choisissant ce titre.
Une autre explication, c'est que c'est simple, c'est un principe général, c'est que l'avoir donne le pouvoir, et le pouvoir donne le valoir, c'est-à-dire la manière de compter l'idéologie. Et c'est un cercle vicieux, et oui. Le valoir fait justifier l'avoir.
Hein, oui, ça, c'est pas tout à fait ça. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça, il y a une chose un peu erronée dans ce que vous dites.
Bien, on pourrait peut-être étudier l'évolution de ces trois concepts en parallèle avec l'évolution politique et idéologique pendant une période déterminée de l'islam.
Oui.
C'est au début de l'islam, ou par exemple par rapport aux Abbasides, ou dans l'idéologie marxiste, etc.
Oui. Rien d'autre? Bon. Oui, alors comme l'indiquait votre camarade, l'intérêt de cet intitulé, c'est d'abord que nous employons des verbes à l'infinitif qui désignent des réalités abstraites, générales, sans prendre parti sur la hiérarchie que certains sociologues et certains historiens introduisent chaque fois qu'ils parlent, par exemple, de l'économique, du politique et du culturel. Vous n'ignorez pas que nous vivons dans un contexte dominé implicitement ou explicitement par la référence marxiste qui veut que l'économique soit la source, la base matérielle de toute étude du politique et du culturel. Ceci fonctionne dans bien des pays et dans bien des enseignements, en France comme ailleurs, comme une donnée philosophiquement admise. Il y en a d'autres, évidemment, qui refusent cette donnée, qui font l'inverse. Alors, le premier intérêt de cet intitulé, qui utilise des infinitifs abstraits, c'est qu'il laisse ce problème, ce débat philosophique ouvert. Il ne prend pas parti. Et c'est tout à fait essentiel, lorsqu'on étudie l'histoire de la pensée, de penser soi-même à ce que l'on est en train de faire. Car si je m'en allais comme ça, avec mes gros sabots, en vous disant, bon, l'économique, etc., implicitement, j'adopte un schéma d'explication qui est un schéma idéologique que la réflexion philosophique n'a pas tranché. Je n'en ai pas le droit. Par les historiens, de quel droit irions-nous imposer des postulats alors que nous n'en savons rien? Comment ça a fonctionné? Il faut d'abord savoir comment ça a fonctionné. Et voilà pourquoi je veux étudier ça sous cet intitulé neutre, l'avoir. L'avoir, c'est avoir une veste ou avoir des millions, c'est très général.
Avoir, c'est économique, pouvoir, c'est politique, et valoir, c'est idéologique.
Nous allons voir.
C'est déjà clair.
Oui, mais nous allons voir. Nous allons voir comment nous allons analyser ces concepts. Vous faites des correspondances trop simples. Lorsque vous établissez ces correspondances ou ces traductions,
Marx n'a pas étudié que la société européenne.
Vous allez trop vite. Comment?
Marx n'a pas étudié seulement les sociétés, la société européenne. Il a étudié la société asiatique, d'autres sociétés.
Ah.
Oui.
À
Donc, il n'est pas parti d'une conception ethnocentrique.
Le pouvoir, le pouvoir et le valoir. Vous voulez dire que vous mettez une hiérarchie déjà?
Ah non, non, pas du tout. C'est une simple énumération. C'est une simple énumération. Vous pouvez l'inverser, oui. Vous pouvez dire le valoir, le pouvoir. Ça, il faut bien, vous savez, le langage est linéaire. Hein. Le langage est linéaire. On ne peut pas, quel que soit l'ordre que j'adopterai, vous pouvez toujours me dire que je fais une hiérarchie. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors justement, c'est pour ça que je vous explique. Il n'y a pas de hiérarchie parce que je n'en sais rien. Et s'il y a lieu d'introduire une hiérarchie, nous le ferons lorsque nous aurons fait des investigations suffisantes dans ces trois domaines du point de vue historique de l'histoire des sociétés. Voilà. C'est clair, du point de vue méthodique, c'est cela qu'il convient de faire. Quant à ce qu'un Marx a pu faire sur l'Asie, ou en tout cas sur l'islam, il n'a pas fait grand-chose, le domaine islamique, je vous le dis, il n'est pas encore examiné, il reste à examiner, et en particulier la période que nous étudions. Quant au mode de production asiatique, vous savez que ça a fait couler énormément d'encre, et ça continue d'en faire couler, et le débat n'est pas clos, justement sur le mode de production asiatique. Alors, ceci dit, ces trois instances de l'activité et de l'existence humaine dans toutes les sociétés, l'avantage, comme vous le disiez aussi, c'est que ceci, ce sont des phénomènes qui existent absolument dans toutes les sociétés connues, dans le passé et dans l'espace. Donc, l'autre avantage de cet intitulé, c'est que nous avons une problématique de dimension anthropologique. C'est-à-dire qui concerne absolument toutes les sociétés humaines. Et dans toute société humaine, il y a des phénomènes d'avoir, il y a des phénomènes de pouvoir, et il y a des phénomènes de valoir. Et il s'agit de savoir comment ces trois instances se structurent et se commandent l'une l'autre dans chaque type de société. Alors justement, lorsque nous commençons à étudier les sociétés arabes à partir du phénomène coranique, de l'intervention du Coran, comme je vous l'ai dit, nous constatons qu'il y a en effet des structures de pouvoir et des structures économiques qui interviennent et que ces structures-là vont être bousculés, reformulés, re-hiérarchisés, justement par l'intervention du Coran. Et le Coran introduit une instance qui est l'instance du valoir. Et le valoir, ça n'est pas le valoir, comme vous le disiez, de quelqu'un qui possède des biens et qui par conséquent peut se faire valoir dans la société. C'est le valoir au point de vue éthico-religieux. C'est la qualification éthico-religieuse de tout acte humain. C'est le domaine, tout le domaine de l'éthique et du religieux que désigne le valoir. Et dans la pensée occidentale, ces trois instances, valoir, pouvoir et avoir, ont été examinées précisément par Marx pour l'avoir essentiellement, en rapport avec le politique, par Nietzsche en ce qui concerne la critique de la valeur, la critique du valoir, la pensée de Nietzsche sur la valeur au sens éthico-religieux. C'est cela que je vise. Alors justement, le Coran introduit une hiérarchie de valeurs qui va s'imposer progressivement et dont il va falloir suivre le développement historique, la mise en place historique dans les sociétés. Et ses conséquences. C'est cela l'objet de l'investigation. Il ne s'agit pas de dire le Coran a apporté quelque chose d'absolument merveilleux, c'est comme ça, etc. C'est ce que disent évidemment les musulmans quand ils font l'histoire. Mais nous, comme je viens de vous l'expliquer, nous voulons au contraire comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment ces instances du pouvoir, du valoir et de l'avoir se sont, encore une fois, agencées les unes avec les autres ou les unes contre les autres, même après l'intervention dogmatique, catégorique, sacralisante du discours coranique. Et c'est le débat qui a été ouvert, vous le savez, au lendemain de la mort du prophète, en 632, le premier débat qui a été ouvert, c'est celui précisément du pouvoir. Qui va exercer le pouvoir après la mort du prophète? Voilà un problème qui a été posé historiquement et concrètement. Ça n'est pas un problème de spéculation. Et il a été résolu sur le terrain. Comment? Par référence à quoi? Qu'est-ce qui a dominé dans ce débat? Est-ce le valoir tel qu'il a été défini par le Coran et par le prophète? Ou est-ce des références à l'avoir tel qu'il fonctionnait dans la société arabe pré-islamique? Voilà des questions qui sont des questions qui relèvent de l'histoire de la pensée. Alors, sous ce grand titre, donc, nous pouvons faire des exposés sur pouvoir et légitimité. Pouvoir et légitimité. De 632 à 661. Alors, pouvoir et légitimité de 632 à 661, vous avez là un grand nombre de problèmes à étudier. Alors, je vous lirai l'article Imam, dans l'encyclopédie d'Islam toujours, l'article Imam. Un article très très instructif que tout le monde doit lire parce qu'il résume le débat d'une façon historique, en donnant la parole à tout le monde, car les historiens musulmans ne donne pas la parole à tout le monde. Chaque fois qu'il traite de ce problème du pouvoir et de la légitimité tel qu'il s'est posé, justement dans cette période cruciale de 632 à 661, selon que le musulman est un chérif ou un sunnite ou un kharijite, il va vous donner une version des faits conforme, bien entendu, à sa secte, à sa position à l'intérieur de l'islam, une position qui a été définie tardivement d'ailleurs, alors que l'historien justement n'a pas du tout à prendre parti dans ces débats entre sectes de nature théologique, et il doit essayer de rétablir la vérité historique telle que les choses, autant qu'on peut les connaître, se sont effectivement passées. Alors, de vous pouvez également lire dans l'encyclopédie d'Islam à propos de ce débat, donc l'article Imama, l'article Khariji. L'article Ibariya. Tout ça, ce sont des lectures minimales, indispensables. Alors, Imama, Kharjit et Ibariya. Également, l'article Qadariya. Qadariya. Qadariya, c'est l'école qui adhère à la conception du Qadar, c'est-à-dire du libre arbitre, de la libre détermination, par opposition aux partisans de la prédestination, de la contrainte divine sur les actes humains. C'est lié au débat sur pouvoir et légitimité. Vous voyez comment les problèmes d'ordre théologique sont intimement liés à des problèmes d'ordre politique. Cinquième série d'exposés. Alors, à retenir tout ceci, hein, Arpar. Akhbar, athar, hadith, et tarikh. Tarikh, tarikh, at-tarikh, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ces quatre mots? Que veut dire ces quatre mots? Quelle est la dimension qu'il nous ouvre?
Il n'y a pas ici aussi la différence entre la
réalité. Aucune idée, alors vous savez traduire, non? Akhbar. Nashratul Akhbar. Akhbar al-Yaoum. Vous écoutez par la radio? Les informations, les nouvelles. Oui, l'akhbar. L'athar. Les vestiges, les traces. Les traces du passé. Les empreintes. Oui. Tout ce que le passé laisse et qui peut servir de document, de référence pour la connaissance du passé. Hadith. C'est la causerie, la parole. Et la parole par excellence, celle du prophète. Hadith, c'est le hadith nabawi. La parole, les propos tenus par le prophète. Et enfin, tarikh, l'histoire. Vers ces quatre termes ont été utilisés à partir du 1er siècle, toujours, nous sommes toujours au 1er siècle de l'Égypte, pour désigner l'activité de connaissance du passé. L'activité de connaissance des événements fondateurs. Les événements fondateurs de la nouvelle histoire. Et quelle est cette nouvelle histoire? Bien entendu, celle inaugurée par le Coran et l'action du prophète. Pour connaître ce moment historique privilégié, inaugurateur, il a fallu déclencher un mouvement de connaissance que nous pouvons qualifier de connaissance historique, puisqu'il s'agit de connaître un passé. Alors, cette activité-là se déroule par la collecte des arbres, c'est-à-dire des nouvelles, des informations qui sont transmises par tous ceux qui ont une mémoire suffisamment étendue chronologiquement, remontant jusqu'au prophète. Alors vous avez, pour cette mémoire-là, vous avez la hiérarchie qui part du prophète et de ses compagnons. Ensuite, vous avez les tabi'ûn, la deuxième génération. Tabi'ûn, c'est-à-dire les suivants, ceux qui sont venus après les compagnons, Sahaba. Et ensuite, Tabi'u, Tabi'i. C'est-à-dire la génération qui suit celle des suivants. Et ainsi de suite. Alors chaque génération est une génération de témoins. Shahid. La shahada. La shahada en islam, vous le savez, le témoignage est le fondement de toute connaissance de la vérité, selon la conception islamique. Puisque l'islam lui-même, le premier fondement de l'islam, par quoi devient-on musulman ? Par la shahada. De même que le chrétien devient chrétien par le baptême, et que le juif devient juif par la circoncision, bien entendu. Comment ?
Je suis juif. Ah oui, je me pose la question, c'est intéressant.
Oui, c'est-à-dire que c'est une vieille pratique sémitique que les Arabes aussi ont retenue. Seulement les Arabes l'ont désacralisée, c'est-à-dire qu'ils ne la pratiquent pas avec la même intention religieuse que les Juifs. Les Juifs lui ont conservé sa valeur sacralisante, sa valeur, comme on dit en ethnographie, de rite de passage. C'est un rite qui permet de passer de l'extérieur de la communauté à l'intérieur de la communauté. Et c'est par la circoncision que le juif devient un juif. Voilà pourquoi le juif doit être circoncis immédiatement après sa naissance.
Est-ce qu'il ne doit pas être de
même juif par la
base ?
Comment ?
Est-ce que les juifs, c'est une question que je posais, ne doit pas être de même juif ?
Oui, bien sûr.
Donc ce n'est pas la circoncision qui est...
Ah oui, mais la circoncision, c'est l'acte de reconnaissance. C'est l'acte d'intégration. De même que le chrétien, qui naît de parents chrétiens, doit être baptisé pour devenir chrétien et entrer dans la communauté. Et bien pour le musulman, il doit prononcer la shahada, la profession de foi, pour entrer dans la communauté. C'est vous dire l'importance de la shahada. Et de la même façon, l'histoire, la connaissance du passé, est fondée sur le témoignage. Et un témoignage oral. Et voilà pourquoi on parle des arba. Parce que c'est une information orale qui est donnée de bouche à bouche et de génération en génération. Et ces informations contiennent des athars, c'est-à-dire des traces, des empreintes, traces du passé. Qui va devenir, cet ensemble va devenir progressivement le hadith, c'est-à-dire une science technique.
Avec l'isnad,
oui, une science technique qui consiste à rapporter plus spécialement les paroles du prophète. Alors, l'ensemble de ces quatre termes désigne ce que l'on appelle l'historiographie. L'historiographie. Ilm al-tarikh. Alors, pour cette série d'exposés-là, vous pouvez voir dans l'encyclopédie d'Islam les quatre termes techniques, c'est pour cela que je les ai notés. En insistant en particulier sur l'article hadith. Bon, encore une série d'exposés à propos du fiqh. Le fiqh, c'est la science du droit. La science du droit.
la science du droit.
Alors à propos du FIRC, vous avez un article toujours dans l'encyclopédie du STAM. Il faut étudier la relation entre au sol et faux. Osoul, c'est le pluriel de Asl, qui veut dire le fondement, la source, la base, la racine. Pluriel Osoul. Alors les Osoul, ce sont les racines, les sources à partir desquelles dérive la loi, le droit musulman, c'est-à-dire le fiqh. Et ses sources, ses racines, c'est le texte coranique et le hadith, précisément, qui constituent les fondements, qui constituent les sources à partir desquelles on dérive par des techniques appropriées d'analyse, on dérive la science du fiqh, qui est une science, une des sciences fondamentales de la pensée arabe. Et les fourreaux, au contraire, c'est le pluriel de fara. Fara, ça veut dire une branche, la branche d'un arbre, fourreau. Vous voyez, c'est le tronc et les branches. Employez une métaphore. Le tronc et puis les branches de l'arbre. Les branches de l'arbre, ce sont les diverses lois, les diverses applications du droit. Voilà, je pense qu'on peut, on a de quoi s'occuper pendant longtemps avec tout ceci. Il y aurait encore d'autres sujets d'exposé, mais je pense qu'on peut s'en tenir là, au moins jusqu'à la fin du trimestre. Alors je répète que pour ceux d'entre vous qui désirent traiter l'un ou l'autre des sujets que je viens de dire, ils peuvent le faire et me remettre ce qu'ils ont fait, ou bien faire un exposé ici en place. Ça dépend. Cela dépend du candidat. Il y en a qui peuvent écrire en arabe ou qui doivent écrire en arabe. Il y en a d'autres qui doivent écrire en français. Vous, par exemple, il faut que vous écriviez en français. Parce que je présume que vous écrivez bien en arabe et que vous avez besoin de faire des progrès en français. Par conséquent, vous allez écrire en français. Vous êtes ici pour vous améliorer et non pas pour suivre la pente facile.
C'est une question par rapport à la série avoir, pouvoir, valoir. Si c'est pour expliquer par exemple la différence et trois notions entre la jahiliya et l'islam, est-ce que le fait d'appartenir à un clan ou à une famille ou à une tribu spécifique, est-ce que vous incluez ça dans la valoir? Comment? Et pas dans le valoir, par exemple.
Ah, oui. Aussi, ça compte aussi, mais il y a toujours des
dérivés. Mais je veux dire, est-ce que le fait d'appartenir à un clan,
il y a des considérations de valoir et des considérations d'avoir.
Et concernant les
participants, tu veux encore enregistrer les bavardages?
Oh non, moi je parle pas.
Là, Myrène, t'as pris une virus, c'est deux.
C'est deux.